Voix Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Bangui, bonjour à tous. Quatre militaires français étaient entendus aujourd'hui à Paris dans l'enquête sur les soupçons de viol d'enfants. Ces abus se seraient déroulés lors d'un déploiement en Centrafrique. Il s'agit des premières auditions de militaires français dans cette enquête qui porte sur des accusations de viol commis dans un camp de déplacés entre décembre 2013 et juin 2014 et vise 4 soldats français stationnés à l'époque donc dans la capitale centrafricaine. On ne sait pas cependant si les 4 hommes étaient auditionnés dans le cadre d'une garde à vue ou en tant que simple témoin. On reste en République centrafricaine pour parler des centaines de musulmans évacués du PK-12 de Bangui au plus fort du conflit et qui veulent retourner chez eux. Leurs maisons ont été occupées par des qui refusent de vider les lieux, comme nous le rapporte Christine, notre envoyé spécial dans la capitale centrafricaine. Son reportage est lu ici par Michel Joseph.
En avril 2014, le convoi de camions évacuant les musulmans venait à peine de quitter le quartier PK-12 que des pilleurs ont invasé les lieux, emportant tout ce qu'ils pouvaient trouver. La mosquée centrale du PK-12 a été détruite jusqu'à sa fondation dans une campagne de violence lancée par les milices anti-Balaka. Ces derniers accusaient les musulmans de la zone de soutenir les rebelles Séléka qui avaient pris le pouvoir au début de 2013. Le conflit qui s'est généralisé a fait des milliers de morts de déplacés chrétiens comme musulmans. Gervais Tekamba a emménagé dans une maison du PK-12 qui appartient à des musulmans.
Ça, la maison où j'habite là actuellement, là, ça c'est pas pour les musulmans. Ça c'est pour un chrétien, c'est pour un national centrafricain. Donc même si les musulmans viennent, moi je peux pas accepter que eux, les musulmans, reviennent dans la maison.
Mahamat Tirabjo, lui, a fui le PK-12 vers la fin 2013, au plus fort des affrontements intercommunautaires. Il dit n'avoir pas oublié sa maison dans son ancien quartier à Bangui.
Oui, mais pourquoi pas?
Notre maison a été détruite. Mais lorsque la paix reviendra, nous retournerons avec les papiers légaux prouvant que c'est notre terrain.
Pour parvenir à une paix durable, les autorités devront avant tout déterminer qui est propriétaire de quoi, estime Jonathan Pednaud, chercheur à Amnesty International.
La question de la propriété foncière est cruciale pour l'avenir de ce pays, car si vous n'êtes pas à même de mettre en place les mécanismes nécessaires pour régler les problèmes avant le retour des déplacés, alors vous retrouverez avec des querelles de terre pouvant aisément se transformer en confrontation entre communautés.
Pour l'heure, la paix se fait attendre alors que les assassinats se poursuivent à Bangui et dans d'autres villes du pays.
Nigeria, on s'achemine vers la fin de l'ultimatum du président Buhari à ses généraux pour en finir avec l'insurrection de Boko Haram d'ici la fin de l'année. Mais les attaques du groupe islamiste continuent et la coalition militaire régionale chargée de le combattre peine à se mettre en place. Un succès tout de même, la police secrète a annoncé samedi qu'elle avait démasqué ces dernières semaines des cellules dormantes de Boko Haram dans la capitale Abuja et arrêté 12 personnes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La justice sud-africaine a ordonné aujourd'hui la libération sous caution du champion paralympique Oscar Pistorius après sa condamnation en appel la semaine dernière pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Pistorius, qui n'est pas encore fixé sur sa peine, est libéré sous caution, la caution étant fixée à 10 000 rands, environ 690 dollars, annoncé le juge Aubrey Ledouaba à la haute cour de Pretoria. Le second mandat du président ivoirien Alassane Ouattara doit privilégier le règlement des profonds défis relatifs aux droits humains, a averti ce mardi Human Rights Watch. L'ONG américaine dit lancer cet appel pour éviter que la lutte pour sa succession ne replonge la Côte d'Ivoire dans des violences. Jacques Aristide.
Si Ouattara omet de s'attaquer aux défis relatifs aux droits humains qu'il n'a pas réglés durant son premier mandat, la lutte pour sa succession pourrait encore une fois menacer la paix sur laquelle s'est construit le rétablissement de la Côte d'Ivoire, déclare Human Rights Watch dans son dernier rapport. Début novembre, Alassane Ouattara, réélu dès le premier tour de la présidentielle du 25 octobre, a été solennellement investi président de l'Ivoire pour un mandat de 5 ans. Bien que le président Ouattara ait réussi à éloigner progressivement la Côte d'Ivoire de son douloureux passé, le chemin vers le redressement du pays est encore long, a prévenu Jim Warmington, chercheur à Human Rights Watch, dans ce document intitulé « Consolider cette paix qui nous appartient » un agenda relatif aux droits humains pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a refusé de publier le rapport final de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation mise en place par Ouattara en 2011 et qui avait pour but d'aider à empêcher de futures exactions, souligne l'ONG. En Côte d'Ivoire, l'opposition et la société civile accusent la justice de ne s'adresser qu'aux membres du camp Gbagbo.
Les défis de la Tunisie, alors que le prix Nobel de la paix sera remis ce jeudi à un groupe d'organisations ayant cimenté la transition démocratique dans le pays, la Tunisie reste plongée dans l'état d'urgence, preuve de sa vulnérabilité face à la menace djihadiste. Anne Albertson.
Après l'attentat suicide contre un autobus de la sécurité présidentielle qui a fait 12 morts le 24 novembre, les autorités ont instauré un couvre-feu nocturne à Tunis, fermé temporairement la frontière avec la Libye et pour la deuxième fois cette année, instauré l'état d'urgence. De quoi rappeler crûment la fragilité du processus de démocratisation que le Nobel couronne cette année. En attribuant la prestigieuse récompense au Quartet pour le dialogue national, le comité Nobel norvégien a pourtant tenu à ériger la Tunisie en modèle de réussite du printemps arabe, dont elle est d'ailleurs le berceau. En 2013, à un moment délicat de l'histoire du pays, les organisations qui forment ce quartet, le puissant syndicat UGTT, l'organisation patronale Utica, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre des avocats, avaient aidé à résoudre la crise politique née des blocages entre le parti islamiste Ennahda et ses opposants.
La proposition de Donald Trump en tête de la course des primaires républicaines aux États-Unis d'interdire l'entrée des musulmans dans le pays est raciste et ne fait qu'attiser les tensions entre les communautés américaines, a jugé aujourd'hui la plus haute autorité religieuse d'Égypte. Le milliardaire américain Donald Trump, en tête des sondages donc des primaires républicaines pour la Maison-Blanche en 2016, a appelé à barrer l'entrée des musulmans aux États-Unis, proposition applaudie par ses partisans, mais dénoncée à droite comme à gauche. La Chine envisage de construire sa première base militaire à l'étranger. C'est le continent africain qui va l'abriter. La petite République de Djibouti est le pays qui a été choisi. Pour des observateurs, la décision de Beijing reflète le raffermissement de ses liens avec l'Afrique, mais s'inscrit également dans sa stratégie économique touchant les quatre coins du globe. John Lydon nous en dit davantage.
La Chine affirme que sa base navale de Djibouti sera en fait un centre de logistique et d'approvisionnement. Le petit pays d'Afrique orientale est proche des zones à haut risque comme la Somalie et du Sahel et se trouve sur le golfe d'Aden, le long d'une voie du commerce mondial qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Les États-Unis, la France et le Japon y ont également des bases. Pékin a doublé son soutien financier pour l'Afrique, de 5 milliards en 2006 à 10 milliards en 2009, puis à 20 milliards en 2012. Maintenant, la Chine a triplé ce nombre. Le président Xi Jinping était en Afrique du Sud la semaine dernière, où il a promis 60 milliards de dollars sous forme de prêts et d'aide à l'Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les autorités turques ont interpellé 18 personnes et parmi elles, d'anciens hauts responsables de la police, accusés d'être proches de l'ennemi juré du président Recep Tayyip Erdogan, l'imam Fethullah Gülen, ont rapporté les médias turcs, ancien allié de M. Erdogan, M. Gülen qui dirige depuis les États-Unis un puissant réseau d'écoles, d'ONG et d'entreprises est devenu son ennemi public numéro un depuis le scandale de corruption à la fin de l'année 2013. 27 personnes font l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre de l'opération lancée ce mardi à l'aube. Le pape François a lancé ce mardi le jubilé de la miséricorde, temps fort de son pontificat. Cette année sainte, 15 ans après le jubilé de 2000 du pape Jean-Paul II, est une année sainte extraordinaire. Contrairement aux années ordinaires qui ont lieu en principe tous les 25 ans, ce jubilé a été fortement voulu par le pape François à 50 ans de la fin du Concile Vatican II pour souligner l'importance de la miséricorde de Dieu, mot-clé de son pontificat. Et puis du sport pour terminer, à suivre aujourd'hui la sixième et dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions ce soir. Le choc Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, Real Madrid reçoit Malmö, Wolfsburg croise le fer avec Manchester United, le PSV Eindhoven accueille CSKA Moscou, Galatasaray va en découdre avec Lokomotiv Astana, FC Séville affronte la Juventus de Turin, Manchester City aura affaire aux Allemands de Mönchengladbach. Merci de nous avoir suivis, Jean-Roger Bien à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bonne écoute sur le programme de la radio.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.